Il est presque 8h23 à Paris sur RFI. C'est l'heure de retrouver Norbert Navarro pour la revue de presse. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec à la une de la presse française ce matin, le Gabon, où la tension demeure vive et la capitale Libreville est toujours paralysée.
Oui, Libération décrit ce matin Libreville comme étant en effet paralysée par la peur. Dans les colonnes du journal, un enseignant pro-ping admet son incapacité à manifester. Depuis la marche réprimée de mercredi, à laquelle j'ai participé, il n'y a plus de grand rassemblement, c'est impossible, dit-il à Libé. Toutefois, à la nuit tombée, des groupes de jeunes construisent des barricades à la hâte, complètent le quotidien, mais, remarque un autre témoin, ça ne dure pas longtemps car les forces de l'ordre, cagoulées, tirent à balles réelles. Et puis, toujours dans Libération, cette retraitée de l'éducation nationale témoigne, elle aussi. « J'en ai marre », dit-elle. Elle avait 14 ans quand Omar Bongo, le père de l'actuel président, mis en selle par Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, avait pris les rênes du pays. Elle a 63 ans aujourd'hui, précise Libération.
Voilà pour le décor Norbert. Au plan politique, c'est aussi la paralysie.
Oui, pour évoquer la situation au Gabon, le journal Le Figaro opte tout à la fois pour les mots « dérive » et « impasse » dans les expressions. Le pays est en pleine dérive et le Gabon s'enfonce dans une impasse politique. Le quotidien conservateur évoque la situation dans le quartier général de l'opposition, pris d'assaut dans la nuit de jeudi par les militaires, où une dizaine de dignitaires de l'opposition avaient été retenus par les gendarmes avant d'être libérés hier soir après plus de 36 heures et une intervention de la France, souligne Le Figaro. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, selon un bon spécialiste anonyme cité par ce même Figaro, si Ali Bongo arrive à contenir la rue, cela pourrait passer, car, remarque-t-il, pour l'instant, les pressions diplomatiques sont minimales. Du reste, dans le journal Le Parisien de ce matin, quand ce quotidien lui demande s'il a le sentiment que la France s'est mise en retrait depuis le début de cette crise, Jean Ping répond par l'affirmative. On a le sentiment qu'il y a non-assistance à peuple en danger de la part de la France, notre premier partenaire, mais aussi de toute la communauté internationale, déplore-t-il, et Jean Ping de demander à François Hollande qu'il exerce toutes les pressions nécessaires pour que la vérité des urnes soit reconnue et que ceux qui violent la démocratie soient mis hors d'état de nuire, dit-il encore dans Le Parisien.
Mais justement, Norbert, au chapitre des réactions, si la gauche française n'a pas manqué de réagir très vite à la réélection d'Ali Bongo, la droite, elle, a tardé à le faire.
Oui, et cela n'a pas échappé à nos confrères du site internet de Jeune Afrique, qui remarquent fort judicieusement qu'en France, après être longtemps resté silencieux, les ténors de la droite française ont commencé hier à faire entendre leur petite musique, à commencer par Alain Juppé, principal challenger de Nicolas Sarkozy pour la primaire des Républicains, qui a appuyé l'une des principales revendications de l'opposition gabonaise, à savoir le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Mais Jeune Afrique a manifestement comme un doute sur la sincérité de ce soutien du maire de Bordeaux à Jean Ping, en se demandant si cette réaction n'était pas seulement une façon de mettre en difficulté son rival Nicolas Sarkozy. Car en 2009, rappelle notre confrère panafricain, l'ancien président français avait été l'un des premiers à chaudement féliciter Ali Bongo après son accession au pouvoir. 7 ans plus tard, Nicolas Sarkozy s'est pour l'heure gardé de le féliciter, remarque Jeune Afrique. Dans la même veine qu'Alain Juppé, l'ancien Premier ministre François Fillon est lui aussi sorti du bois en faisant sien le sentiment que le président Bongo n'avait pas gagné cette élection. Et aussitôt, Jeune Afrique de rappeler que François Fillon a récemment été vivement critiqué pour ses propos assimilant la colonisation à, je cite, un partage de culture et qu'il avait refusé de s'apesantir sur les relations parfois incestueuses entre Paris et Libreville en déclarant que, je cite encore, la repentance ne sert à rien. Voilà, et sans commentaire.
Allez, un mot également d'un pays dont on parle rarement, l'Ouzbékistan, dont le leader Islam Karimov est mort.
Oui, l'Ouzbékistan, c'est ce pays d'Asie centrale, le pays de Tamerlan, le conquérant, celui des mosquées à coupole de Samarcande, celui également de la route de la soie. Frontalier de l'Afghanistan, l'Ouzbékistan est vu comme un rempart aux infiltrations de groupes talibans aujourd'hui, dont certains ont prêté allégeance à l'État islamique, tout comme de djihadistes issus du Tadjikistan et du Kirghizistan et transitant par la vallée de la Fergana, précise le Figaro. Karimov, lui, occupait depuis plus d'un quart de siècle le fauteuil présidentiel à Tachkent, faisant de lui le leader le plus âgé de l'espace post-soviétique, et il était doté de la plus grande longévité politique. Rappelle ce journal, le régime Karimov était brutal, mais aussi stable, qualité dont ses voisins immédiats peuvent difficilement se prévaloir et dont le successeur n'aura jamais la carrure, ajoute ce journal. C'est pourquoi on peut nourrir quelques inquiétudes pour la stabilité de la région, estime un spécialiste dans le Figaro. La transition est suivie de près tant par la Chine que par la Russie.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr. Norbert, je vous dis à demain.
À demain.